J'ai écrit ce livre tout simplement pour réfléchir à la question de ce qu'est la paternité déjà, puisque en réalité, il y a plusieurs choses. On appelle Dieu Père. Ben oui, d'accord, qu'est-ce que cela veut dire exactement que Dieu soit Père? Après, les prêtres, on les appelle Père. Or, moi j'ai lu dans l'Évangile, comme vous, le Seigneur qui nous dit « Ne vous faites pas appeler Père ». Alors j'ai dit quand même, un jour il faut réfléchir à la question. Ce que j'ai fait donc pour essayer de parler de cela. Évidemment, dans ce village, et aujourd'hui je vis depuis un an et je vais continuer, dans un village Saint-Joseph, c'est encore autre chose. Le village Saint-Joseph où je vis maintenant, c'est l'idée, c'est un couple qui accueille des personnes qui sont vraiment détruites pour se reconstruire, mais comme dans une famille. Donc c'est jamais très important. Il y a on accueille 10 personnes à peu près. Donc le couple avec ses deux petits-enfants, c'est un jeune couple. Une personne consacrée qui nous a rejoint et puis moi qui suis là pour les accompagner, faire d'autres choses aussi en même temps, mais pour les accompagner. Et on accueille des personnes qui sortent de prison, qui sortent de l'alcool, de la drogue, de la rue, enfin toutes sortes de misères, mais vraiment des personnes détruites. Et donc voilà, on essaie de les aider, non pas pour la réinsertion, on n'en est pas encore à ce stade, mais véritablement pour sortir de l'enfer. Et il se passe des choses assez magnifiques et ça m'a fait comprendre quelque chose en vivant avec eux, que notre position à nous, prêtres ou personnes ordonnées ou évêques, eh bien, nous sommes toujours un peu en posture. Vous savez, on est toujours en posture parce que, au fait, on nous fait représenter, on joue un personnage. Alors, quand on est archevêque de Paris, je vous dis pas, c'est encore pire que tout, parce qu'on nous appelle à la radio, à la télé, à ceci, on préside à peu près tout ce qui existe. Mais du coup, je me posais la question, qui est une question déjà soulevée par saint Augustin, qui disait « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Et c'est vrai que c'est une question. Moi, j'ai vu, étant évêque de Nanterre puis évêque de Paris, que, en fait, l'agenda, c'est pas moi qui le remplis, et je fais de la représentation en permanence. Et je me dis, l'idée, c'est qu'en fait, on nous fait jouer un rôle, celui de « Pour vous, je suis évêque ». Mais à quel moment je peux dire « Avec vous, je suis chrétien ». Alors maintenant, comme je fais la vaisselle avec des gens qui sortent de prison, je me dis « Avec vous, je suis chrétien » et je pense que je suis maintenant vraiment complètement à ma place. Et c'est la réflexion, mais c'était avant de vivre au village de Saint-Joseph que j'ai écrit ce livre. La deuxième chose, c'est le cléricalisme. C'est un terme qui est employé par le pape. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement le cléricalisme? Est-ce que c'est l'apanage des clercs? Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc voilà, c'est les deux réflexions à partir du cléricalisme dont parle toujours le pape François en nous disant de l'éviter. Et puis la phrase de Jésus, ne vous faites pas appeler père. Alors, qu'on s'appelle père ou monsieur l'abbé, c'est la même chose puisqu'abbé, ça veut dire père, donc vous savez. Donc, quelle paternité? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, même dès le départ, c'est compliqué. Parce que quand on est ordonné prêtre, cela veut dire qu'on est configuré au Christ. Au Christ, c'est-à-dire au Fils de Dieu. Donc, si nous configurons au Christ dans les trois états, c'est-à-dire Christ serviteur, ce sont les diacres que nous restons toujours, Christ prêtre et Christ bon pasteur, ce sont les évêques, ceux qui veillent sur le troupeau. Donc, très bien, mais on est configuré au Christ. Mais alors, pourquoi on nous appelle Père? Si on n'est pas configuré au Père, on est configuré au Christ. C'est déjà une question. Alors on dit, le prêtre est un alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. Attention, parce que il faut, je ne vais pas parler latin pour pas avoir l'air pédant, mais il faut pas confondre alter Christus et ipse Christus. Ipse, ça veut dire qu'on se substitue au Christ, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit bien d'être configuré au Christ, c'est-à-dire de le représenter, mais pas de se substituer à lui. On ne fait que représenter le Christ sans prendre sa place. Et donc, c'est important que nous le rappelions que notre rôle là, parce que sinon, on risque de se laisser enfermer dans un rôle, comme je vous le disais, une image que l'on a de soi, et comme les prêtres aujourd'hui, dans la société, sont quand même très dévalorisés, désacralisés, la tentation pour un prêtre, c'est de rechercher un peu les honneurs, les postures, les flatteries, ah, mon père, ou alors pire encore, mon seigneur, etc. Et donc, cher père, monsieur l'abbé, donc voilà. Et on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, c'est important pour évangéliser, mais la question, c'est qu'il faut pas trop qu'on se mette en devanture. Donc voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce genre de choses entraîne un vide en soi et une déception et le besoin de reconnaissance. Je dis cela parce que il y a 3 ans, 4 ans, il y a une étude de la CAVIMAC. La CAVIMAC, c'est l'assurance maladie des prêtres. Ils ont fait un sondage, un interrogatoire pour savoir comment se portaient les prêtres, quelle était leur santé. Or, d'habitude, quand on interroge les prêtres, il y en a 10% qui répondent à peu près, et là, 63% ont répondu. Énorme, énorme. Ça veut dire qu'ils étaient très motivés. De toute la France, 63%. L'idée, c'était de savoir quel était leur état de santé. Eh bien, globalement, les prêtres se portent pas mal, et contrairement à ce que peuvent dire les méchantes langues, ils ne sont pas plus alcooliques que la moyenne des Français. Peut-être plutôt moins. Mais, en revanche, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les burn-out. Et les burn-out ont 3. Il y a 3 raisons du burn-out. La première, c'est le surmenage. La deuxième, c'est la dépersonnalisation. La troisième, c'est la mésestime de soi. Donc, le surmenage, vous comprenez ce que cela veut dire. L'étude comparative qu'on avait fait avec les médecins montrait que les médecins étaient en burn-out par surmenage. La semaine dernière, j'étais avec des gitans et puis il y avait un médecin qui venait d'arrêter. Il voyait 70 malades par jour. Donc, inutile de vous dire que ça, c'est vraiment le surmenage. Mais les prêtres, ce n'était pas la cause principale du burn-out. La deuxième raison, la dépersonnalisation, veut dire que vous n'avez plus d'empathie, c'est-à-dire vous n'aimez plus les gens. Alors, heureusement, c'était ni chez les médecins, ni chez les prêtres. En revanche, la dernière cause, c'est-à-dire la mésestime de soi, était la raison principale qui avait été découverte par la CAVIMAC pour les burn-out des prêtres. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose de sérieux. En regardant les verbatims, je voyais les prêtres. Vous voyez, les prêtres, simplement, bon, ils donnent leur vie pour le Christ et pour leurs frères. Quand ils se retrouvent avec 3 personnes âgées à la messe et 2 enfants cathés sur tout un secteur, eh ben, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est ça, la mésestime de soi, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a essayé de faire en donnant sa vie et l'effectivité de ce que l'on fait, et puis l'isolement surtout des prêtres. Et donc, voilà, ça m'a fait réfléchir. J'ai réuni les vicaires généraux pour savoir qu'il fallait reprendre les choses. Les vicaires généraux, toujours gentils, ont dit, ah non, mais c'est pas pour nous, c'est en province. Je dis, non, ça marche pas, ça. Donc, on a revu un peu la manière dont on peut être beaucoup plus présent aux prêtres pour prendre soin d'eux. Donc, ça, c'était la première question qui m'est venue. Ensuite, comment comprendre être configuré au Christ et le fait de qu'on appelle le prêtre père? Quand on appelle le prêtre père, cela ne veut pas dire qu'il est configuré au Père. Ça veut dire qu'il est configuré au Christ, qui est l'unique grand prêtre, mais comme le Christ est le vrai Fils de Dieu, c'est lui qui nous révèle le Père. Il a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, c'est le Fils qui révèle le Père. Autrement dit, quand le prêtre, on l'appelle Père, il est configuré au Christ qui nous fait connaître le Père. Voilà, c'est en ce sens, on peut l'appeler Père, qu'il manifeste quelque chose de la paternité de Dieu. Parce que sinon, nous sommes frères en Jésus, nous sommes enfants de Dieu, mais le prêtre reçoit une ordination simplement pour être configuré au Christ, pour transmettre la vie éternelle. Il entre dans l'engendrement du Père. Donc, il participe en Christ à l'engendrement du Père. Le Christ est engendré, ça je fais de la théologie, et nous, nous sommes créés. Le Christ est engendré, il est Dieu. Nous sommes créés, nous sommes dans l'humanité. Jésus est Fils unique du Père, engendré, non pas créé. Donc, je vais faire un petit plongeon dans l'histoire pour vous parler de la paternité humaine, d'abord. Après, je vous parlerai de la paternité de Dieu. La paternité humaine, tout d'abord, c'est une notion récente. Ça n'existait pas, la paternité. Les historiens nous montrent que dans les premières civilisations, qui étaient des civilisations nomades, comme nos frères gitans avec qui j'étais la semaine dernière, eh bien, ces civilisations nomades étaient centrées sur la mer. Et celui qui transmet la vie, et c'était un géniteur, mais il n'y a pas de figure paternelle. Ce sont des tribus de 40 personnes autour de la mer avec des géniteurs différents. Mais aucune figure de père en tant que tel, c'est ce qu'on appelle le matriarcat. La figure masculine, parce qu'il y en avait une, est représentée par l'oncle maternel. On en trouve des traces en Irlande avec la Tanistry, on en retrouve des traces en Afrique où l'oncle maternel s'appelle le petit grand-père, et chez nous aussi. Vous savez, on appelle notre tonton oncle. Oncle vient d'avinculus, en latin, qui signifie l'oncle maternel. Pas l'oncle paternel, l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de celle qui est la mère et qui est la matriarche. Donc, c'était des sociétés assez violentes puisque les fils étaient bien issus de la même mère avec un seul parent et donc le risque de lien fusionnel, ce qui existe avec la maman de manière naturelle. Mais comme ils sont de pères différents, il y avait des conflits internes et des conflits externes. Cette société violente s'est transformée peu à peu au néolithique avec l'installation des villes. Les villes et puis l'installation tout simplement à cause de l'agriculture. On n'était plus des tribus nomades. Avec l'installation des villes et l'agriculture, la figure masculine va émerger en prenant une autre stature, c'est-à-dire, évidemment, on est sûr que la mère soit mère, c'est sûr, mais on n'est jamais sûr que le père soit père. Et juridiquement, c'était très difficile. C'est comme cela qu'à Rome, dans les 12 tables, c'est la loi romaine, ou en Grèce, la loi de Gortym, est apparu l'interdit de l'adultère. L'interdit de l'adultère, ça permettait au père une consistance juridique. Même s'il y avait un adultère, au moins, le père était reconnu à cause de cette loi qui interdisait l'adultère, ce que reprend d'ailleurs la Bible, tout simplement. On retrouve ça aussi dans le code d'Hammurabi. Donc, c'était vraiment la manière d'installer juridiquement la paternité. Et c'est comme cela, donc, qu'apparaissent le patriarcat qui va s'installer peu à peu avec l'émergence de deux parents, c'est-à-dire le père et la mère. Mais évidemment, avec le patriarcat, il y a une inversion. La femme devient une personne mineure par rapport à l'homme. Et on voit bien à Rome, par exemple, le père a un droit de vie et de mort sur ses enfants, pas la mère. On voit ça dans les premiers temps chrétiens, par exemple. Ça s'appelle l'exposition. Quand l'enfant naît, maintenant c'est avant qu'il naisse, mais maintenant, quand l'enfant naît, le père le prend dans les bras ou pas. S'il le prend dans les bras, il devient son fils, c'est à Rome. S'il ne le prend pas dans les bras, eh bien, il est abandonné, il est jeté aux chiens, aux animaux. Et c'est comme ça, les premiers chrétiens, d'ailleurs, sont les premiers à réagir à cela. On a ça dans les lettres de Barnabé, on a ça dans le plus ancien livre, qui n'est pas un livre canonique, c'est-à-dire la Didaché. Dans la Didaché, il y a l'interdiction d'abandonner ses enfants, comme le faisaient les Romains, le patriarche romain, qui pouvait abandonner ses enfants en ayant le droit de vie et de mort. Il y en a un aussi qui s'appelle le pasteur d'Hermas, celui qui a écrit le pasteur d'Hermas, qui est un enfant qui avait été abandonné sur un tas de fumier et qui a été recueilli par les chrétiens. Donc on voit bien qu'il y avait quand même des situations difficiles et que peu à peu le patriarcat s'est installé et donné à la femme un rôle mineur. Depuis longtemps déjà, les Hébreux avaient réagi à cela. Vous connaissez l'histoire de la Genèse 2 avec la création de la femme à partir de la côte d'Adam. Vous rappelez de ça, ça fait sourire. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est un texte significatif. Il signifie quelque chose. Que signifie-t-il? Eh bien, ce qu'on appelle un midrash. Un midrash, c'est une explication rabbinique. Les rabbins donnent cette explication. Elle est connue depuis longtemps puisqu'elle est déjà racontée dans la Somme théologique de Pierre Lombard, un siècle avant Thomas d'Aquin. Il avait écrit et puis il raconte ce midrash. Donc, c'était connu depuis très très longtemps. Que veut dire cette histoire de la côte? Eh bien, les Juifs disent « Dieu a créé la femme à partir d'un os de la côte parce que s'il avait créé la femme à partir d'un os de la tête, Eh bien, c'est le matriarcat, la femme domine l'homme. Si Dieu avait, messieurs, je suis désolé, mais si la femme avait été créée à partir d'un os du pied, l'homme aurait méprisé sa femme. Et c'est le patriarcat. Et les Hébreux disent non. Dieu a créé la femme à partir d'un os de la côte en face du cœur pour que l'homme aime sa femme. C'est cela l'explication. Évidemment, il faut la connaître. Et c'est important, ce qui veut dire que ça change complètement. Il n'y a pas une question de guerre des sexes, mais une question de parfaite adéquation. Tu honores ton père et ta mère. Il n'y a pas de différence dans les lois juives. Et donc, voilà ce que disait Hébreux, père et mère. Alors, je pourrais vous citer plein de choses, mais je ne sais pas si j'ai le temps de vous dire tout cela. Voyez, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère, c'est une couronne de grâce pour ta tête. C'est dans l'île des Proverbes. Le quatrième du commandement du Décalogue, honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre. Et puis, il y en a beaucoup d'autres encore qu'on pourrait citer. Mais c'est donc la parfaite égalité de l'homme et de la femme dans l'éducation. Alors, la différence, c'est que, non pas parce que la femme est créée après, mais la femme est la première à qui Dieu donne un nom. Vous savez que, vous avez peut-être lu la Bible, et si vous avez lu la Bible, vous savez que l'homme va nommer les animaux, il va leur donner un nom. Or, donner son nom, c'est avoir autorité. L'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie, tu l'appelleras Jésus. Après, il va voir Joseph, tu l'appelleras Jésus. Donc, tous les deux ont autorité sur Jésus. Autorité, ça vient de O-G-O en latin, ça veut dire faire grandir. Et non pas, c'est pas le pouvoir. Depuis très longtemps, au 5e siècle, le pape Gélase avait fait la distinction entre l'autorité et le pouvoir. Auctoritas, potestas. Potestas, c'est le pouvoir des grands qui ont un pouvoir coercitif. L'autoritas, dit le pape, c'est pour faire grandir et certainement pas pour écraser. Donc déjà, cette distinction est marquée. Mais l'homme ne nomme pas sa femme. Il s'appelle Adam, en fait, c'est un terme générique, Adam. Ça veut dire qu'il est tiré de Adama, qui est la terre, le sol. C'est le bouseux, le glaiseux, le terreux, enfin comme vous voulez. Et Dieu crée la femme, il fait tomber un sommeil mystérieux. Ce sommeil mystérieux, toujours dans la Bible, il revient à plusieurs reprises, ça veut dire que Dieu seul agit. Et donc, il va sortir la femme de la côte et il est dit, Adam dit, elle sera appelée femme. Donc, c'est pas lui qui la nomme. Quand vous avez un passif en hébreu, sera appelée, c'est Dieu qui agit. Autrement dit, c'est Dieu qui a donné son nom à la femme. Et donc, voilà. Et elle s'appelle Isha et lui qui s'appelle Adam, ne peut s'appeler Ish que lorsqu'il est halfené, c'est-à-dire face à face avec sa femme. Autrement dit, la qualité humaine, parce qu'avant, Dieu les crée homme et femme. C'est pas exact. Il est dit dans le texte qu'il les crée Zakar et Nekoba, c'est-à-dire mâle et femelle. Mâle et femelle, c'est-à-dire l'altérité fondatrice de l'humanité. Cette altérité correspond à l'altérité suprême, cette altérité suprême, le tout autre, c'est Dieu. Mais en l'humanité, il y a une altérité qui est faite pour la communion, à l'image de Dieu. Dieu est une communion dans l'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme et la femme ont pour vocation une communion dans l'amour, justement dans cette altérité homme-femme. Voilà ce que dit le texte et les explications qu'on peut en tirer, en regardant un peu autrement que de manière superficielle. Donc, l'homme devient « ish-homme » que lorsqu'il est présent avec sa femme. C'est-à-dire que dans toute la tradition, c'est la femme qui amène la lumière divine. Dans le Shabbat juif, aujourd'hui encore, c'est la femme qui amène la lumière. Pour nous, c'est Marie qui a porté celui qui est la lumière. Donc, c'est toujours la femme qui apporte la lumière. Et même au jour de la résurrection, c'est Marie-Madeleine qui est l'apôtre des apôtres, qui annonce la grande nouvelle de la résurrection. Donc, on voit que le rôle n'est pas du tout subalterne, il est même très important. Alors, la société romaine, bon, je vous passe sur la société romaine, ça fait trop long. Voilà, ça c'est pour la paternité divine, comment comprendre la paternité humaine, comment elle a émergé, c'était ce que je voulais dire. Maintenant, la paternité divine, comment se fait-il qu'on appelle Dieu Père? Au départ, c'est pas comme cela qu'on l'appelait. Si vous regardez les commencements, les textes les plus anciens disent que Il est le Dieu de nos pères. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas question au départ que Dieu soit père. Mais c'est à partir du 8e siècle et même dans le livre de l'Exode, on voit ça. Le prophète Osée nous dit, c'est Dieu qui parle. Quand Israël était jeune, je l'aimais et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est vraiment la toute première fois que Dieu appelle ce peuple, son fils. Et ensuite, dans l'Exode, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Et après, donc, il va y avoir un changement complet. Ce ne sera plus le Dieu des pères, ça sera Dieu et notre Père, le Père d'Israël. Jusqu'à Jésus, qui appellera Dieu Abba, montrant avec Dieu, le Père, une familiarité et une intimité qu'on retrouve dans la prière. Et d'ailleurs, Jésus fait la distinction pour la réunir. Qu'est-ce qu'il dit à Marie-Madeleine ? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lui, c'est son Père, mais c'est son Père selon l'engendrement, c'est-à-dire de la même nature consubstantielle, et il est notre Père par adoption, et pas pareil. Mais dans la société en général, les enfants adoptifs héritent de la même chose que les enfants naturels. Et donc, qu'est-ce qu'on hérite de Dieu ? Eh bien, ce qu'il fait Dieu, la vie éternelle, et l'amour même de Dieu qui nous est communiqué par le Christ. Je dis la vie éternelle parce que vous savez, si vous connaissez un peu les cosmogonies, vous savez, les mythologies. Les mythologies, le premier mot qui parle de paradis, c'est en perse, paradisa. Et puis, toutes les cosmogonies montrent toujours le jardin des dieux. Il y a le jardin des dieux, c'est le paradis, si vous voulez. Et dans la Bible, c'est aussi le Gan Elohim, ça veut dire le jardin de Dieu. La différence, c'est que dans toutes ces mythologies, il y a un arbre de vie au milieu, et c'est le signe de l'immortalité. Seuls les dieux peuvent manger de cet arbre, seuls les dieux sont immortels. Vous connaissez le mythe de Prométhée, bien sûr, qui a voulu chercher le feu du ciel, ça s'est mal terminé. Eh bien, dans la Bible, l'homme et la femme, l'humanité tout entière, est appelé à vivre dans l'intimité de Dieu, et cette intimité de Dieu lui assure l'accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la vie éternelle. Autrement dit, le Christ est revenu, puisque par la désobéissance et par le refus de Dieu, et le fait justement de vouloir se faire comme Dieu, qui est la tentation permanente de l'humanité, eh bien, l'homme s'est séparé de Dieu, et donc a retrouvé sa condition naturelle, c'est-à-dire la condition mortelle. Le Christ nous remet dans la condition voulue par Dieu originelle, c'est-à-dire la vie éternelle, rétablit pour nous la vie éternelle. Donc, c'est le Christ qui va révéler la paternité qui ne peut être établie que par lui. Dans Matthieu 11, 27, vous avez « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, en réfléchissant à cette histoire de paternité, celle de Dieu, celle des hommes, il me semble que c'est à partir de là que la paternité des prêtres doit être comprise. Comme Jésus-Christ, ils sont là pour révéler l'unique paternité de Dieu, source de tout engendrement à la vie éternelle. Le prêtre est configuré au Christ par son ordination, il doit faire connaître Dieu le Père, étant lui-même totalement uni à Jésus, qui, devenu semblable aux hommes, s'humilia plus encore en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, bien sûr, vous avez reconnu Philippiens 2 de saint Paul. Voilà, c'est donc en s'abaissant à l'image de son Seigneur que le prêtre peut accomplir parfaitement sa mission de révélateur de la paternité de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, le prêtre ne peut vraiment se faire appeler père que lorsqu'il ressemble au Christ qui est descendu dans la condition la plus basse. Ce n'est que comme cela qu'on peut révéler non pas notre paternité, mais la paternité de Dieu. Voilà, et c'est pour ça qu'il est bon de dire « Dieu n'est pas père à la manière des hommes ». Ce sont les hommes qui doivent devenir père à la manière de Dieu. Je dis cela parce que, vous voyez, nous, on pense Dieu Père, mais on fait les projections de notre propre paternité. Si notre Père est un type bien, Adam va dire que Dieu, c'est formidable. Mais j'ai ordonné un prêtre, Joseph, il y a 4 ans. Joseph, quand il avait 7 ans, d'abord il s'appelait Youssef, donc il n'était pas chrétien. Quand il est rentré de l'école à 7 ans, il a retrouvé sa mère poignardée par son père. Sa mère était en sang, son père avait un couteau et son père a voulu le tuer. Donc vous imaginez l'image du père. Donc il a été élevé dans des familles d'accueil qui l'ont maltraité et puis il s'est retrouvé à la rue quoi. Il s'est retrouvé à la rue sur un Grenoble. Et un jour, un curé passe et puis lui offre un café. Vous voulez pas? Alors lui, pour un café, toujours d'accord. Il y va, donc il passe par l'église, il va prendre le café, puis le prêtre commence à lui expliquer, vous savez, pour nous, Dieu est père. Il m'a dit, j'ai failli lui casser la figure. Pour moi, le père, c'est un monstre. Et si Dieu est père, c'est épouvantable. Donc, vous voyez, attention de ne pas projeter nos propres expériences de la paternité sur Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui est père comme nos pères. C'est nos pères qui doivent devenir comme Dieu. C'est intéressant parce que du coup, il va falloir comprendre ce que ça veut dire la paternité de Dieu. La paternité de Dieu. Alors, nous pensons, le père, nous pensons toujours une expression particulière de la masculinité. C'est pas tout à fait vrai. La paternité en Dieu n'est ni masculine ni féminine. Il y a des moments où Dieu parle de lui comme il parlerait d'un homme, enfin de ce qu'est le masculin, mais aussi le féminin. Vous savez, déjà dans le prophète Isaïe, Dieu apparaît avec les entrailles d'une mère. Et donc, comme une mère, comme celui que sa mère console, ainsi je vous consolerai, Isaïe 66. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Même une femme oublie-t-elle son petit enfant? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Donc Dieu a des entrailles de mère. Et les entrailles, nous on pense aux tripes, mais non, les entrailles, c'est l'utérus en fait. Et le mot miséricorde, vous savez, Dieu est miséricorde. Alors, nous connaissons le mot miséricorde parce qu'il vient du latin. Miséricordius, c'est un cœur, miséricordia, pardon. C'est le cœur, cordia, qui se penche sur la misère. Mais en hébreu, c'est pas ça du tout. En hébreu, la miséricorde, c'est rahamim. Rahamim, ça vient de rehem, c'est l'utérus. Autrement dit, c'est la vie qui renaît là. La miséricorde, c'est comme si vous retourniez dans le ventre de votre mère. Vous savez ce que dit Nicodème et Jésus, vous connaissez ce dialogue en Saint Jean, chapitre 3. Mais comment peut-on retourner dans les entrailles de mère? Et en discutant une fois avec un musulman, il me dit, mais dans le Coran aussi, Dieu est miséricorde, il n'est pas amour dans le Coran, mais il est miséricorde. Et ça vient aussi d'un mot arabe qui est proche de Chaim et qui signifie l'utérus. Alors, je dis, comment vous l'expliquez? Quand Dieu fait miséricorde, c'est que comme si on revenait à la vie à partir du ventre de notre mère. Donc vous voyez, Dieu, ça ne vaut pas le catégoriser suivant nos schémas masculins ou féminins. La paternité de Dieu est bien plus large que cela. La paternité de Dieu, c'est-à-dire celui qui donne vie, mais qui entretient avec nous un lien aussi bien de l'amour qui peut venir d'un homme ou d'une femme. C'est ni masculin ni féminin. Donc, c'est les prophètes. Les prophètes aussi, moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par le bras, et n'ont pas compris que je prenais soin d'eux, etc. Donc, pas de projection masculine, mes entrailles s'émeuvent pour lui déborde ma tendresse. C'est dans Jérémie, vous voyez, c'est toujours ça. Alors, il faut comprendre, quand on voit le mot miséricorde, parce que il y a deux mots qui sont équivalents pour signifier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est en hébreu, c'est chesed, et l'autre, c'est miséricorde, c'est rahamim. Rahamim, je vous le disais, ça vient des entrailles. Etramoni, c'est l'amour instinctif. Une maman aime son enfant, c'est comme cela. Et puis c'est l'amour, c'est l'élan amoureux, c'est rahamim. Alors que chesed, quand Jésus emploie le mot, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis quand Jean emploie, c'est chesed, c'est l'amour. Mais c'est l'amour qui s'engage. Il y a donc deux formes d'amour. Il y a l'élan naturel, comme par exemple quand on tombe amoureux. Et puis, il y a l'engagement, c'est-à-dire le don de sa personne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie signifie un engagement. Et donc, c'est les deux qui sont en Dieu. Et donc, vous voyez, au-delà de l'aspect masculin ou féminin de la paternité de Dieu, la paternité de Dieu est celle qui engendre, qui s'engage et qui prend soin. Et donc, voilà ce qu'est la paternité de Dieu et comment nous pouvons penser que nous pouvons être pères. Maintenant, le cléricalisme. Eh bien, je pense que c'est une perversion de la mission. Le pape donne une définition de... Je vous la retrouve. Et voilà, c'est ça. Le pape François précise sa pensée sur le cléricalisme. J'ai été rechercher ça. C'est dans La force de la vocation, un discours qu'il avait fait à Madrid. Il s'agit pour lui d'attitudes de ségrégation en se considérant supérieur aux autres. Je le cite, « Le cléricalisme est une aristocratie. Cela se traduit par des attitudes qui veulent faire croire que l'on est au-dessus du reste du saint peuple fidèle de Dieu. Là où il y a cléricalisme, le peuple de Dieu n'est pas là, qui est pourtant celui qui te donne ta place. » Voilà, alors le cléricalisme, pour essayer de donner une définition simple, c'est pas d'ailleurs exclusif au clerc, à mon avis, c'est quand on reçoit une mission et qu'on en fait une fonction. Quand une mission devient une fonction, alors ce n'est pas juste. Une mission, ça veut dire qu'on est envoyé, elle ne nous appartient pas. D'ailleurs, ce que j'ai dit au pape pour la mienne, j'ai dit, moi je ne démissionne pas, c'est pas la question, mais vous m'avez donné ma mission et donc elle vous appartient. Donc voilà, une mission ne nous appartient pas. À partir du moment où on s'empare de la mission, on en fait une fonction et c'est là que l'on est clérical. Mais c'est vrai, ça peut être une tentation pour les prêtres, ça peut être aussi quelquefois une tentation pour les laïcs qui des fois s'imposent un peu brutalement dans certains lieux. Voilà, donc, est clérical celui qui identifie la mission reçue à une fonction identitaire, au risque d'en faire un lieu de pouvoir et non plus d'humble service à l'image de Jésus-Christ. Donc voilà, je pense que vraiment, notre mission, elle est fondée sur la relation, mais justement sans rapport de subordination. Il faut distinguer, dit le père Jean-Marie Hénaud, jésuite qui a beaucoup travaillé sur le sacerdoce, entre vocation et fonction. Comment comprendre maintenant la manière de porter la mission? Ce que j'essaie de faire au village où je suis, je me dis que les prêtres sont totalement isolés, puis on a quadrillé le territoire, vous savez, tout fonctionne en territoire pour nous dans l'Église. La paroisse, c'est un territoire, le diocèse, c'est un territoire. Or, aujourd'hui, tout fonctionne en réseau. Et ma question, ce n'est pas d'éliminer le territoire, parce qu'en fait, je passe un peu partout en France et je m'aperçois qu'on essaie de boucher les trous comme on peut. Mais ça va pas, ça veut dire que ça va pas. Moi, je rends service aux prêtres avec qui je suis. Je suis un grand secteur de la Seine-et-Marne, là, dans ce village, et il y a 6 prêtres pour un très grand secteur. 5 prêtres sont africains, 1 prêtre est polonais. Donc, quand on se rend compte, c'est uniquement pour distribuer les messes. Mais je me dis, ça va pas, ça, c'est pas la mission. Et donc, je vais les aider, donc des fois, je vais affronter le verglas, la neige, etc. J'arrive, 0 paroissiens, 0. Alors, j'emmène les gens qui sont avec moi pour qu'il y ait un peu de monde. Et ça veut dire que ça ne correspond plus. Comment on va rejoindre les gens? La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on a l'air de tenir une boutique qui n'intéresse plus personne. J'en ai parlé au pape, bien sûr. J'en ai parlé à mes frères évêques. Je me dis qu'il faut qu'on revoie complètement notre logiciel. Alors, je ne sais pas très bien où je vais. J'en ai parlé au pape qui m'a confirmé dans ce que je suis en train de faire. C'est comment, à partir de l'accueil des pauvres, on peut proposer la mission. Et c'est vrai que quelque chose est en train de s'amorcer. C'est pour ça que je vais rester un an de plus. Parce que, par exemple, à Pâques, j'ai proposé d'aller bénir les maisons. Alors, les gens étaient étonnés. J'ai dit, c'est une vieille tradition. Donc, au début, c'était les quelques pratiquants, puis après, ça s'est élargi. Et puis, j'ai demandé aux gens, mais écoutez, je viens chez vous dire à bénir la maison. Et donc, les gars qui sont chez moi, il y a des hommes et des femmes, hein, et ils m'ont fait des jolies croix. Et donc, je laisse une croix. Alors, Grillon de Montfort, il faisait un calvaire. Mais si je fais un calvaire aujourd'hui, les maires vont me le démolir. Donc, je fais plus ça. Donc, je fais des croix Et je dis, voyez, il y a une croix chez vous. Les gens ont plus de croix chez eux. Il dit, elle vous rappellera que votre maison a été bénie. Et puis, quelquefois, quand je sens que c'est mûr, je leur dis, vous voulez pas que je dise la mèche chez vous? Ils me regardent pas. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Pendant 4 siècles, on a dit la messe à la maison. Et nous, moi, je vis dans un lieu, là. Le village Saint-Joseph, c'est une église domestique. C'est comme une famille. Il y a une petite chapelle et je dis la messe tous les jours pour ceux qui veulent, qui sont là, ils viennent, ils viennent pas. On parle de la parole de Dieu tous les jours, mais à la messe, ils sont pas obligés. Mais voilà, je dis la messe. Alors, ils viennent, ils sont tout étonnés. J'ai dit, alors, je viens. Je dis, ben, vous invitez vos enfants, votre famille. Puisqu'ils viennent plus voir Jésus, ben, Jésus vient les voir, hein. Comme il y a 2000 ans. Et donc, ça m'arrive de dire la messe dans les maisons. Quelquefois même, il y avait tellement de monde qu'on a été obligé de se mettre dans la chèvrerie. Dans la ferme, il y avait 50 fidèles et 200 chèvres. Ah, c'est compliqué parce que quand on leur dit, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant et que les chefs font, ben, je me dis, dois-je considérer Seigneur comme un amen? C'est oui, je crois. Enfin bon, c'est assez drôle, mais en tous les cas, ça touche les gens. Puisqu'ils viennent plus, il faut aller les voir. Alors bon, c'est un peu anecdotique, mais néanmoins, les choses, vous savez, commencent toujours très humblement. Les grands trucs, en général, ça ne dure pas, et tout ce qui a changé les choses dans l'Église commence toujours très, très modestement. Et donc voilà, je suis en train de regarder cela et comment aussi on porte la mission autrement. J'ai parlé de cléricalisme. Pour changer de cléricalisme, dans l'endroit où je suis, c'est un jeune couple, Manon et Mathias, qui ont fait tous les deux, qui étaient dans l'armée tous les deux avant, et qui gagnaient bien leur vie. Hein. Ils ont fait la guerre au Mali, ça peut dire qu'ils ne se font pas très impressionner. Heureusement, parce qu'on a des gaillards quand même, qui ont fait de la prison, mais qui sont très gentils. Hein. C'est vraiment... Notre travail, c'est vraiment de transformer les loups en agneaux. Quelquefois, la société transforme des agneaux en loups, mais non, nous, c'est le contraire. Donc, et c'est très beau. Hein. Franchement, je me dis, voilà, des personnes qui sont tombées au fond du trou, mais vraiment au fond du trou. On va chercher les gens juste avant qu'ils se pendent. Hein. Enfin, des trucs épouvantables. Et quand je vois le chemin qu'ils font, comment ils sont perméables à la grâce, je me dis, c'est fou. Alors, faut-il être tombé au fond du trou pour être perméable à la grâce. Mais le chemin qu'ils font, là, il y a eu 2 baptisés, Tankavel, qui est un Sri Lankais qui vit depuis 20 ans en France, il parle pas un mot de français parce qu'il a été exploité par ses co-religionnaires tamouls et qu'il faisait travailler au black. Et puis, ben, il a fait un accident vasculaire et donc, il avait 40 et quelques années, et il est foutu, quoi. Et donc, on l'a ramassé dans les bouches de métro. Et aujourd'hui, ben, il a été baptisé à Pâques, il a fait un chemin extraordinaire. Enfin bref, je ne peux pas vous raconter l'histoire de tous ces gens-là, mais je me dis peut-être, c'est très humble, c'est très simple, mais c'est peut-être comme cela aujourd'hui qu'on va reconstruire. Parce que dans ce village, il y a le couple responsable. C'est pas moi, c'est eux qui prennent les décisions. Ils viennent des fois me demander conseil, souvent d'ailleurs, mais moi je dis, c'est vous qui prenez la décision, toujours. Il y a donc moi, ministre en René, et puis il y a Odile qui est une personne consacrée, âgée, qui était consacrée dans l'Arche et qui est avec nous. Donc, les 3 états de vie, laïc, ministre ordonné, prêtre, et puis consacré. Et je pense que ces 3 piliers sont intéressants parce que vous voyez, le Concile Vatican II a remis la place des laïcs. C'était important. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on est en vis-à-vis, laïc, prêtre, des fois, il y a des conflits de pouvoir. Avec le 3e pied, c'est-à-dire des consacrés, eh bien, ça change un peu la donne. Parce que prophètes, ce sont les consacrés qui annoncent par leur propre vie le royaume à venir. Les laïcs annoncent le royaume déjà là. Donc, rois, prophètes, rois parce que c'est eux qui portent la société aujourd'hui et qui annoncent par leur vie, leur travail, leur famille, le royaume de Dieu déjà là s'ils sont croyants. Et puis le prêtre qui fait l'union entre les deux et qui donne la grâce du ciel. Et donc, c'est ensemble, sans posture et sans être au-dessus. Il me semble qu'on peut aujourd'hui essayer de porter à nouveau la mission. Alors, il y a d'autres villages qui sont en train de se mettre en place, certains justement accueillis par des communautés religieuses, qui étaient très intéressants, c'est-à-dire les communautés religieuses vieillissantes, elles ont des grands bâtiments, ça n'a pas qu'on fait. Donc, elles ont accueilli un village Saint-Joseph et c'est assez formidable parce que les prêtres qui sont responsables, c'était à Pontivy, je suis allé pour le grand pardon, c'est des prêtres assez jeunes. Ils disent, ben nous, on a l'impression d'être des prestataires de services, mais quand on vient ici, on retrouve la gratuité. Et je pense que s'il faut retrouver, c'est la gratuité. La grâce, c'est la même origine étymologique que gratuité. Donc, comment on retrouve cette gratuité? Dans notre société, on fonctionne sur la réciprocité. Mais avec Dieu, c'est pas comme cela. Dieu, on peut rien lui donner. C'est lui qui donne tout. Et c'est le pur amour. Et comment on retrouve cette gratuité? Et en parlant avec le pape, il m'a dit, oui, il faut absolument retrouver la gratuité. Donc voilà, enfin, en tous les cas, voilà l'expérience que je fais. Comment justement on peut dépasser le cléricalisme, aussi bien des prêtres que des laïcs, et comment revisiter la paternité de Dieu, et comment le fait d'être père ne nous met pas en posture, mais au contraire, comme celui qui sert.